Vous êtes avec SBS French.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Europa Voice numéro 153. Nous sommes avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Marianne.
Aujourd'hui, on va parler de deux sujets qui sont plus ou moins liés. Évidemment, la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre français et le cyclone dramatique, terrible à Mayotte, un archipel français, le cyclone Chido, dont le bilan est encore incertain. Mais ce qui est sûr, c'est que les conséquences sont absolument dévastatrices. On en parle dans un instant. On commence avec François Bayrou, Nathanaël. François Bayrou en Premier ministre français, Nathanaël, c'est une nomination contrainte et forcée, soyons honnêtes.
C'est une nomination un peu surprise, tout de même, parce qu'il faut dire qu'on ne voit pas tellement les éléments de différenciation entre François Bayrou et Michel Barnier en termes de positionnement politique. Alors effectivement, Michel Barnier est plus à droite que François Bayrou, mais ça reste quand même un allié objectif de la droite et du centre de gouvernement. Donc c'est une nomination un peu surprise. Est-ce que c'est une nomination contrainte ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une nomination qui va obliger les autres partis à se positionner sur les suites de la motion de censure. Et c'est ça qui est intéressant, Marianne. C'est que finalement, au-delà du coup politique d'Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre un peu inattendu, il renvoie la balle finalement dans le camp des Verts, de LFI et du Rassemblement National, qui vont perdre aussi de la légitimité s'ils vont de censure en censure. Ils doivent à un moment se mettre autour de la table et discuter. Et donc c'est finalement assez bien joué encore une fois de la part d'Emmanuel Macron.
Mais est-ce que c'est vraiment un coup politique de la part d'Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est sa décision, son choix ? La rumeur dit quand même que Bayrou n'était absolument pas son premier choix. On entendait notamment parler de Sébastien Lecornu et que c'est François Bayrou qui, lui, a fait un coup politique pour avoir le poste.
Alors c'est vrai qu'il y a eu, notamment je crois dans Le Monde, il y a eu des déclarations de François Bayrou qui disait qu'il allait refuser ou qu'on ne lui avait pas proposé. Et puis enfin ça se répondait. Je pense qu'il y a eu effectivement des discussions en amont de cette nomination. Il faut aussi le dire pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, ce n'est pas un coup de fil d'Emmanuel Macron à François Bayrou qui apprend comme ça de manière inopinée sa nomination. Ce sont des choses qui sont discutées et quand l'annonce est faite, le premier intéressé a déjà été averti. En fait, c'est surtout aussi pour Emmanuel Macron une manière peut-être un peu gaulliste ou gaulienne de se mettre finalement au-dessus des partis, en tout cas de prendre une personnalité qui est capable de composer avec la gauche, avec la droite, une personnalité qui est peut-être capable, alors loin s'en faut et je ne compare absolument pas François Bayrou au général de Gaulle, mais une personnalité politique qui finalement a tellement traversé la vie politique française et a tellement été au cœur de négociations à la fois avec les gauches et les droites de gouvernement, qui peut plaire à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'en fait, je crois que c'est surtout une manière de mettre les partis extrêmes et les partis finalement à l'origine de cette motion de censure face à leurs responsabilités. Vous n'avez pas aimé Michel Barnier, effectivement, une personnalité de droite issue du parti qui est arrivé quatrième aux élections législatives. Là, je vous mets une personnalité dans la vie politique depuis longtemps, qui peut être assez consensuel, qui est capable de travailler à la fois avec la gauche et avec la droite. C'est difficile de reprocher à François Bayrou de ne pas être cette personnalité, on va dire, rassembleuse d'une certaine façon. Alors la question, c'est ce qu'il est capable de rassembler au-delà de la gauche et de la droite de gouvernement.
Une sorte de candidat de la stabilité, parce que, vous l'avez dit, il est dans le paysage politique français depuis longtemps, une quarantaine d'années. On sait dans sa carrière qu'il a déjà fait un pas vers Marine Le Pen, il a déjà fait un pas vers Jean-Luc Mélenchon. Au final, c'est un bon centriste. Il a été des deux bords de l'échiquier politique. C'est pas du tout un outsider, malgré ce qu'il pourrait vouloir faire croire. Pour autant, donc on pense tout de suite à lui en tant que candidat de la stabilité, comme vous dites, peut-être la meilleure des stratégies, notamment après la motion de censure contre Michel Barnier. Et pour autant, LFI refuse de se rendre à Matignon, refuse les négociations. Il faut quoi de plus ? En fait, tant qu'on n'aura pas un candidat à LFI, les négociations avanceront plus.
Alors, c'est un peu effectivement la stratégie qui semble se dessiner pour la France insoumise. Mais encore une fois, c'est un moment quand vous avez des belligérants ou des partis opposés à un conflit ou qu'il y a une contrariété. Si on ne se met pas autour de la table, on ne trouvera pas de solution. Donc cette tactique un peu de la fuite en avant de LFI, elle va à un moment fatiguer aussi et elle va se retourner, à mon avis, contre LFI. C'est aussi important de rappeler parce que moi, je veux plutôt opposé ou en tout cas comparé François Bayrou à Michel Barnier. On avait dit dans les numéros précédents d'Europa Voice que Michel Barnier, c'était le candidat de Bruxelles, c'était le candidat qui était capable de rassurer les marchés, c'était le candidat qui était capable de faire que la France retrouve sa place sur la scène européenne. C'était le Premier ministre, ancien vice-président de la Commission, ancien monsieur Brexit, finalement assez inconnu sur la scène locale. Et là, c'est un peu l'opposé. C'est-à-dire qu'on a une personnalité qui, dans le paysage politique local, très local même, on parlera peut-être de la communauté de communes et de Pau plus tard, mais qui est sur la scène locale depuis 40 ans, qui a créé un parti finalement central de la vie politique française, le MoDem, le Mouvement démocratique centriste, qui a été trois fois candidat à l'élection présidentielle en 2002, 2007, 2012, qui a été un ministre important de gouvernement sous Édouard Balladur, puis Alain Juppé. Donc c'est un peu l'opposé aussi de Michel Barnier. Et donc pour moi, c'est aussi une manière pour Emmanuel Macron de dire, voilà, je vous ai proposé la face A du disque avec Michel Barnier, très europhile, très euro-compatible, très bruxello-compatible. Et bien là, je vous propose un homme de terrain qui connaît la France, qui connaît la vie politique française, qui est capable de rassembler. Il n'y a pas 3000 autres solutions. Et donc c'est pour moi, finalement, une réponse à cette motion de censure aussi de Michel Barnier.
Un homme de terrain qui s'entoure d'hommes de terrain. François Bayrou vient de nommer Nicolas Pernaut, qui est un haut fonctionnaire territorial d'IRCAP, directeur de cabinet. Alors Nicolas Pernaut, ce n'est pas un énarque, ce n'est pas un préfet, c'est un homme de terrain. Est-ce que c'est un signal politique fort vis-à-vis des collectivités?
François Bayrou, ça a toujours été quand même un homme qui a mis en valeur le territoire, le terrain. D'ailleurs, c'est une des premières polémiques sous son règne en tant que Premier ministre, c'est de savoir s'il est capable de rester avec ses mandats locaux. François Bayrou, ça fait partie de ces personnalités qui pensent qu'on doit être capable d'être un élu de terrain et d'avoir des responsabilités nationales. Parce que si on est un élu de terrain, on est capable de faire remonter au national les prérogatives locales et les enjeux locaux. C'est vraiment son ADN, c'est vraiment ce pourquoi il se bat. Et donc cette nomination d'un DIRCAB qui n'est pas franchement issu du moule, elle est intéressante. Mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment le gouvernement qui va émaner de ce Premier ministre.
Et gouvernement qu'on ne connaît pas encore.
Gouvernement qui, à l'heure où on enregistre, Marianne, on ne connaît pas encore. Et c'est ça va donner aussi beaucoup d'indicateurs. Parce que ce qu'on reprochait aussi à Emmanuel Macron sous le gouvernement Barnier, c'est d'avoir un peu pris les mêmes et on recommence. Donc là, la question, si le gouvernement François Bayrou, on se retrouve avec Bruno Retailleau, Gérard Darmanin, Xavier Bertrand, Rachida Dati, etc., ça pourra aussi poser des problèmes vis-à-vis justement des autres partis politiques. Donc à voir si François Bayrou, et là je vous rejoins sur cet aspect de terrain, est capable, pas seulement dans des fonctions de l'ombre administrative comme le directeur de cabinet, mais même pour des fonctions éminemment politiques, publiques, de nommer des personnalités de terrain. C'est l'ADN aussi du MoDem. Marc Fesneau, qui était le ministre de l'Agriculture sous les gouvernements Borne, notamment, et Castex, si je ne m'abuse, c'est un agriculteur du centre de la France. C'est pas un haut fonctionnaire politique. Donc, à voir si François Bayrou est capable de finalement faire ce qu'il a fait au MoDem, de le faire en tant que Premier ministre de la France et de pousser un peu sa manière de faire de la politique. Ça ne veut pas dire que ça va convaincre LFI et le Rassemblement National, mais en tout cas, ce sera une autre option. Et comme je le disais il y a quelques instants, au bout d'un moment, LFI notamment ne pourra pas forcément toujours avoir cette fuite en avant et refuser tous les gouvernements proposés par Emmanuel Macron et les ministres nommés par le Premier ministre.
C'est tellement son ADN, comme vous disiez, qu'on a l'impression que François Bayrou est presque en rejet de la politique à Paris. Il donne l'impression que c'est un cercle très restreint, un entre-soi presque élitiste. Et lui, justement, il veut donner la parole aux collectivités. Vous parliez de la première polémique, on peut l'approfondir. Il y a la situation dramatique à Mayotte qui se passe en ce moment, après le passage du cyclone Chido. On va en parler en deuxième partie d'Europa Voice. François Bayrou a pris la décision de ne pas se rendre à Paris pour assister à une cellule de crise concernant la situation à Mayotte. Il a pris cette cellule de crise en visioconférence puisqu'il était à Pau en train de présider le conseil municipal. Il faut savoir que François Bayrou n'a pas démissionné de son poste de maire de Pau, là où Édouard Philippe ou encore Monsieur Castex avaient démissionné de leur poste de maire quand ils étaient devenus Premier ministre. En un mot, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais il a raison d'insister sur cette ligne, François Bayrou ?
Alors, je ne sais pas, Marianne, s'il a raison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le paroxysme de cette illustration de l'importance du local pour François Bayrou. À l'heure où, dans un territoire d'outre-mer français, donc département slash région, il y a la plus grande catastrophe naturelle qui n'a jamais eu lieu en France avant, où il aurait dû, à mon avis, se rendre sur place, il décide d'aller présider un conseil municipal et faire un aller-retour, en plus en Falcon, en avion privé, etc. Je ne pense pas que ce soit une provocation, si j'anticipe un peu la question, je pense que c'est vraiment la vision, encore une fois, de François Bayrou, de dire les affaires locales et l'investissement d'un maire, d'un président, de communauté de communes, etc., est important. Et je vais attendre d'avoir un gouvernement formé pour aller à Mayotte. Il est cohérent, finalement, avec sa, encore une fois, avec sa ligne de conduite, avec son ADN. Mais c'était évidemment choquant pour 99% des Français, même, je veux dire, pour son entourage politique et pour l'entourage politique du président de la République, de faire ce choix. Parce qu'encore une fois, en termes d'image, c'est pas ce qu'on attend d'un Premier ministre à l'heure d'une crise où, normalement, on est censé... comme on dit en mauvais français, traduit l'anglais, mettre tous les outils par terre et se consacrer à cette crise-là. Donc, à voir combien de temps il va pouvoir être capable de tenir cette ligne, à la fois du local et de l'importance du local. Il y a aussi un côté un peu chiracien quand même dans cette position-là de François Bayrou, voilà, ce rapport à la France rurale, à la France périphérique, cette attache. C'est quelque chose aussi, voilà, qui est encore une fois dans l'ADN de François Bayrou. Et d'une certaine façon, j'allais dire, avec la disparition de Marielle de Sarnez, qui était son alter ego hein, au Modem, le Modem a aussi perdu finalement la personnalité qui était peut-être un peu plus détachée du terrain. Marielle de Sarnez, c'était plus la politique de bureau, la tête pensante parisienne dans les jeux d'appareil. Et Bayrou, c'était cette espèce d'alter ego qui faisait le lien avec son accent, etc., avec le terrain. Et donc, François Bayrou, il va devoir de toute façon trouver aussi un moyen de nouveau impulser quelque chose de fort au niveau de la politique nationale pour ne pas juste être considéré comme finalement un politique local qui a des ambitions nationales.
Et en politique nationale, il y a des gros chantiers hein, qui attendent François Bayrou. Donc évidemment la crise à Mayotte, on va en parler un peu plus largement. La loi spéciale sur le budget, la désindustrialisation de la France ou la réindustrialisation, ça dépend de quel côté on prend le problème. Il y a aussi la loi immigration, la réforme des retraites, la colère des agriculteurs. Bayrou, c'est 40 ans de vie politique, on l'a dit, c'est des chantiers, j'imagine, qu'il maîtrise, qu'il connaît bien, mais est-ce qu'il a les épaules pour les prendre à bras le corps désormais ?
Ça va, Marianne, ça va vraiment dépendre de son gouvernement et s'il est capable d'avoir des ministres à ces postes-là pour porter ces dossiers. Et c'est pour ça qu'en fait, l'hypothèse d'avoir des gros poissons, des ministres consensuels ou qui ont déjà géré, par exemple, le retour potentiel, la possibilité d'un retour de Xavier Bertrand à la santé, c'est un grand indicateur de ce besoin finalement d'avoir un capitaine de paquebot dans ces énormes ministères qui sont en réforme et qui pilotent des réformes tout le temps. Et donc, je pense que, François Bayrou, il a une légitimité politique. Il a 40 ans de vie politique française. Il a trois élections présidentielles. Il a fait pas loin de 19% lors de l'élection présidentielle de 2007. Donc, il y a un cinquième de la population française qui, à un moment, lui donnait confiance. Mais pour mettre en œuvre et mener à bien toutes ces réformes, il aura besoin finalement de ses politiques professionnelles. Et c'est ce qui avait déjà eu lieu un peu avec la nomination de Michel Barnier. On avait vu le retour ou le maintien de Gros Poissons. Et je pense que pour François Bayrou, il n'aura d'autre choix que d'avoir ces Gros Poissons-là. La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on va avoir finalement un gouvernement de droite, bis, ou est-ce qu'on va être capable d'élargir et surtout quelle va être la position du Parti Socialiste. Et à quel moment le Parti Socialiste va se détacher du Nouveau Front Populaire, de la France Insoumise et redevenir une gauche de gouvernement. Et c'est ça vraiment, à mon avis, qui va aussi faire que le gouvernement Bayrou, et je l'espère d'ailleurs pour la France, sera plus durable que le gouvernement Barnier. Et sur ces différentes réformes, le Parlement a déjà, par exemple, pour le projet de loi de finances, permis un report pour que tout se passe bien et que ce soit voté en début 2025. Donc voilà, c'est aussi à la bonne intelligence des parlementaires de faire en sorte qu'il n'y ait pas une espèce d'obstruction qui va bloquer des projets de réforme importants. D'ailleurs, quelle que soit l'issue de ces projets ou de ces propositions de loi, qu'elles soient votées ou qu'elles ne soient pas votées, mais en tout cas qu'elles soient mises dans le jeu démocratique à la fois du gouvernement et de l'Assemblée nationale.
On y verra plus clair dans les prochains jours. Comme vous le disiez, à l'heure où on enregistre cet épisode, le gouvernement n'a pas encore été nommé. Juste avant de fermer cette page sur le nouveau gouvernement Bayrou, en tout cas la nomination de François Bayrou à Matignon, je voudrais vous poser une question en un mot. Nathanaël, c'est un petit pas de côté, mais Marine Le Pen, on le rappelle, elle est potentiellement inéligible en 2027. Pour le moment, présumée innocente, évidemment. Le procès des assistants parlementaires du RN suit encore son cours. Mais elle a dit qu'elle s'attendait à une élection présidentielle anticipée, jugeant qu'Emmanuel Macron est dans une situation tellement fragile qu'il n'a d'autre choix que de démissionner, ce qui avancerait l'élection présidentielle. C'est crédible.
On a un moment intéressant, Marine, la politique, parce que il y a l'inéligibilité de Marine Le Pen, il y a la confirmation de la peine de prison de Nicolas Sarkozy, il y a quand même ce qui flotte pour François Bayrou et son entourage, l'histoire, enfin le précédent du travail fictif des assistants parlementaires justement du MoDem. Donc c'est aussi un moment où on se regarde du coin de l'œil et on se jauge. Je pense que Marine Le Pen, c'est crédible dans le sens où elle pousse ses pions, elle pousse ce gouvernement à la rupture. Après, encore une fois, connaissant l'inimité entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, il n'est pas impensable de penser qu'elle veut précipiter Jordan Bardella dans une élection anticipée, en tout cas dans, sous le feu des projecteurs médiatiques, pour le brûler, pour brûler un peu ses ailes. Mais je pense que là, on va un peu trop loin. Je pense que c'est surtout pour Marine Le Pen de rester crédible sur cette ligne politique qui est de pousser finalement à ce qu'à un moment, il y ait des élections anticipées. Parce que si pour LFI, c'est vrai, ça l'est aussi pour Marine Le Pen, le résultat des urnes et des élections, des dernières élections législatives, pour l'instant, n'est pas représentatif du vote des Français.
Merci beaucoup, Nathanaël. On marque une très courte pause, messieurs, dames, et on revient pour une deuxième partie consacrée à la situation dramatique à Mayotte. À tout de suite.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Europa Voice numéro 153, deuxième partie, une partie consacrée au cyclone Chido qui a ravagé Mayotte, l'archipel français. C'est le cyclone le plus intense qu'ait connu Mayotte depuis 90 ans, à un archipel où un tiers de la population vit dans de l'habitat précaire. Nathanaël, Emmanuel Macron se rend dans l'archipel français ce jeudi, jour où nous tournons cet épisode. François Bayrou, dont on vient de parler dans la première partie d'Europa Voice, a lui dit qu'il se rendrait à Mayotte une fois son gouvernement constitué. Mais pour le député écologiste Stevie Gustave, le gouvernement, je cite, regarde ailleurs pendant que les Mahorais souffrent. Est-ce que c'est légitime comme critique ?
Oui, c'est légitime, Marianne, comme critique. Encore une fois, c'est la catastrophe naturelle la plus importante sur le sol français des derniers siècles. Et on a vraiment l'impression que tout aurait dû s'arrêter. Et même la politique parisienne aurait dû s'arrêter pour que cet effort soit consacré à Mayotte. Encore une fois, les dernières déclarations d'Emmanuel Macron ont bien montré maintenant que les projecteurs sont braqués sur Mayotte et les Mahorais. Mais ce qui s'est passé, notamment avec François Bayrou, on y revient, et ce conseil municipal à Pau a effectivement eu le don d'énerver les Mahorais. Et c'est une réaction finalement assez compréhensible de la part de la population locale.
Pour autant, c'est plus de l'affichage et montrer le respect et l'intérêt de la part de Paris de venir. Mais dans l'absolu, dans les faits, s'ils se déplacent à Mayotte, ils gênent plus qu'autre chose le travail du préfet et le travail des secouristes sur place.
Oui, mais il y a quand même un côté symbolique. Alors on peut aller à l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'il y avait un fait divers, une loi, notamment sous les gouvernements plutôt Sarkozy, où les déplacements sur le terrain étaient à tout va, où Nicolas Sarkozy se rendait sur le terrain au moindre fait divers. Là, effectivement, il y a une portée symbolique, mais les symboles en politique marine sont importants. Et le fait que le président de la République se déplace, oui, c'est symbolique, mais ça a une importance. Et vous mentionnez le préfet, c'est un représentant de l'État. Donc finalement, c'est aussi normal que le président de la République se déplace, aille voir le travail des représentants de l'État. Après, c'est encore une fois, on ne peut pas prédire le comportement d'Emmanuel Macron, c'est à voir comment il va se comporter sur place, les messages politiques. Il va être chahuté, forcément. Mais je crois que oui, c'est un symbole, mais c'est un symbole important et c'est aussi certainement ce qu'attend la population mahoraise à court terme, parce qu'à long terme, c'est évidemment des annonces, un projet finalement politique aussi pour Mayotte et pas simplement juste cette visite du président de la République.
On y vient justement, le bilan humain n'est pas encore établi. Pour le moment, on sait qu'il y a plusieurs dizaines de personnes décédées. On évoque éventuellement plusieurs milliers au final. Les deux questions principales, ou en tout cas essentielles, sont celles de l'accès à l'eau et celles des infrastructures. Est-ce que ce qui s'est passé à Mayotte, c'est le fruit, Nathanaël, d'une politique d'abandon sur la question sociale ?
C'est une question qui est compliquée à répondre parce que c'est avant tout une catastrophe naturelle. C'est un cyclone. D'ailleurs, pour nos éditeurs d'Europa Oil, c'est pas un cyclone évidemment qui touche simplement Mayotte. C'est un cyclone qui touche aussi des pays proches de Mayotte. Je pense notamment au Mozambique. C'est avant tout une catastrophe naturelle. Mais c'est une catastrophe naturelle qui s'inscrit dans un paysage et dans un climat social qui est déjà délétère, où il y a déjà ce sentiment d'abandon de l'État, d'abandon de Paris. Et donc voilà, ça rajoute encore un petit peu à cette musique. Et puis c'est, quand je dis que c'est surtout une catastrophe naturelle, c'est 70% des habitants, selon le ministère de l'Intérieur, ont été touchés. Donc c'est une catastrophe en plus naturelle qui touche un nombre extrêmement important de la population mahoraise. Donc c'est une poudrière, si vous voulez. C'est cette catastrophe naturelle dans un climat déjà social, dans une perception d'abandon de l'État. Et ben ça ne fait qu'amplifier et ça va faire en fait. C'est en train de devenir une crise ou en tout cas une question politique.
Et d'ailleurs politique, ouais.
Politique, sans comparer, sans faire des similarités entières, mais l'année a été compliquée pour la France métropolitaine dans la relation avec ses territoires d'outre-mer. Je pense à la Martinique, je pense à la Nouvelle-Calédonie, dont on a beaucoup parlé dans ces épisodes d'Europa Voice, et là avec Mayotte. Donc le prochain aussi ministre des Outre-mer va avoir un travail important à faire, pas simplement à mettre du sparadrap quand il se passe quelque chose, mais à vraiment considérer cette question-là, à la fois du rayonnement de la France dans le monde, parce que n'oublions pas, l'Indo-Pacifique notamment, c'était une des priorités d'Emmanuel Macron en 2017 dans son premier discours, mais c'est pas simplement le rayonnement de la France, c'est aussi la manière dont l'État est capable de pouvoir assurer la cohésion sociale, le développement économique, etc., etc., dans ces territoires français aux quatre coins du monde.
C'est quand même terrible qu'il faille attendre un cyclone pour parler de Mayotte, parce que certes, Mayotte vient d'être ravagée par Chido, mais Mayotte, c'est également la crise de l'eau, le choléra, l'insécurité chronique. On ne va pas y revenir, vous venez de le dire, un sentiment d'abandon par la France, mais aussi par l'Union européenne. Des fonds vont être activés de la part de l'Union européenne pour Mayotte ?
Oui, des fonds vont être activés de la part de l'Union européenne. Il y a des fonds qui sont prévus, des fonds de solidarité, parce que déjà, c'est un territoire européen. Et si vous allez à Mayotte, vous allez dans ces territoires-là, vous avez plein de routes, notamment développées par des programmes européens comme la FEDER. Donc des fonds vont être développés, une réponse même commune va être apportée, mais encore une fois, du point de vue du terrain, oui, on attend de l'Europe, mais on attend aussi de Paris et de la France, comme vous l'avez dit, de pas simplement être considéré quand il y a une catastrophe naturelle et que les caméras se déplacent, mais de manière continue, comment est-ce qu'on gère ces questions d'insécurité, d'accès à l'eau potable. Encore une fois, c'est assez terrible de se dire qu'une collectivité locale, collectivité française, en 2024, doit encore composer avec ces questions d'accès à l'eau potable. Je crois qu'il est important de rappeler à nos auditeurs, c'est que oui, ce sont des territoires qui ne sont pas en France métropolitaine, mais ce sont des territoires qui devraient bénéficier pour des questions d'égalité de droit et d'égalité devant le traitement de la loi, d'exactement de ce que bénéficient des territoires et des collectivités en France métropolitaine. Et c'est ça, en fait, la vraie question et la vraie problématique que les politiques vont devoir régler.
Évidemment, mais comment on fait ? Mayotte, c'est un territoire absolument vulnérable, totalement mal préparé. Comment on change ça ?
C'est une bonne question, Marianne. J'ai pas toutes les réponses. C'est un tout. C'est une question de gouvernance. Il y a quand même une question de volonté politique. Encore une fois, pas simplement mettre du sparadrap, mais d'investissement. C'est une question de développement économique, de maillage territorial au sein de l'île, au sein de Mayotte. C'est un ensemble de grandes politiques publiques qui ne peuvent pas être faites du jour au lendemain. C'est ça aussi ce à quoi les politiques françaises vont devoir se confronter, ces projets sur le moyen terme pour que ces territoires finalement rattrapent, il ne faut pas avoir peur des mots, mais rattrapent les territoires de France métropolitaine sur toutes ces questions-là, encore une fois, d'accès aux soins, de première nécessité, de développement économique, etc.
Merci beaucoup Nathanaël, je voudrais juste rajouter cette information. Matignon a annoncé une réduction d'impôt de 75% pour les dons jusqu'à 1000 euros pour les 6 prochains mois. Alors à savoir que ce n'est pas une mesure exceptionnelle. Normalement les dons dans ce genre de circonstances c'est déjà déductible des impôts à 66%. Là il y a juste un petit top-up, si je puis dire, à 75%. Donc toute personne qui fait un don jusqu'à 1000 euros, ce sera déductible des impôts pour les 6 prochains mois à hauteur de 75%. Merci beaucoup Nathanaël Bloch.
Merci Marianne et bonne fête de fin d'année à nos auditeurs.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.